a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Avec Emmanuel Macron dans ce budget, ce sont toujours les mêmes qui vont payer.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
C'est l'heure de votre rendez-vous avec la vie politique en France. Voici Dimanche Politique.
Philippe Le Caplin.
Avec Jeanne Bartoli, ce que disent les uns et les deux autres. Et nous décrypterons cette parole politique avec vous, Agnès Ball. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice au département Opinion de l'IFOP. Quelques 45 000 personnes participaient hier à Paris à ce qu'elles appelaient la marche du siècle, manifestation destinée à dénoncer l'inaction contre le changement climatique. Tout s'est passé dans le calme. Pendant ce temps-là, 4 fois moins de personnes défilaient dans la capitale dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. Pourtant, il a beaucoup plus été question d'eux. Alors pourquoi ? Parce qu'ils ont mis à sac les Champs-Élysées en incendiant des kiosques à journaux, en saccageant 80 boutiques et une agence bancaire, ainsi que le célèbre restaurant Le Fouquet's, celui-là même où Nicolas Sarkozy avait célébré sa victoire après son élection à la présidence de la République. Ce n'est pas un hasard, puisque les casseurs étaient plus habillés en noir que portant un gilet jaune. Ce sont des membres des Black Blocs, des activistes d'ultra-gauche. Ces saccages provoquent l'indignation de toute la classe politique, Jeanne Bartoli.
Oui, condamnation unanime aujourd'hui. La classe politique s'interroge notamment sur la réaction des forces de l'ordre. Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, était l'invité de Questions politiques sur France Inter.
Révolté, complètement révolté. En se posant la question, pourquoi les forces de l'ordre ne sont pas intervenus, quelles consignes leur ont été données?
Voilà Xavier Bertrand qui appelle à faire clairement la différence entre manifestants et émeutiers, mais qui affirme néanmoins ne pas vouloir polémiquer du côté des Républicains. François-Xavier Bellamy, tête de liste aux Européennes, est lui beaucoup plus incisif vis-à-vis de l'exécutif.
Aujourd'hui, nous sommes devant un laxisme sécuritaire qui fait qu'aujourd'hui, on peut s'en prendre impunément à des forces de l'ordre, on peut menacer des forces de l'ordre qui pourtant sont là pour notre sécurité. Eh bien non, nous ne pouvons pas nous résigner à cette défaite de l'autorité.
François-Xavier Bellamy, invité de BFM Politique. Marine Le Pen, elle appelle le gouvernement à agir contre les groupuscules d'ultra-gauche. Alors pourquoi le gouvernement n'a pas été capable de prévenir les violences sur les Champs-Élysées? Agnès Buzyn pointe du doigt la manifestation sur le climat qui se tenait hier.
Les manifestants qui avaient déclaré cette manifestation sur le climat et qui souhaitaient manifester pacifiquement pour une très noble cause et une cause qui nous tient à cœur à tous, c'était de les protéger contre justement toutes ces personnes qui risquaient de venir casser dans Paris puisqu'il y avait des menaces. Et puis la police avait renforcé la protection aux abords des Champs-Élysées.
La ministre de la Santé invitée du grand jury RTL Le Figaro LCI.
Qu'a fait la police? Ou plutôt, que n'a-t-elle pas fait? Il y aura des réponses du ministre de l'Intérieur qui est convoqué mardi par le Sénat afin de s'expliquer sur les moyens mis en place pour faire face à ces troubles. Agnès Ball, sur ce mouvement des Gilets jaunes, il y a un basculement de l'opinion publique quant au soutien au mouvement et les violences n'y sont peut-être pas étrangères?
Oui, ce qu'on peut voir dans les sondages depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'effectivement les moments de violence ont induit une baisse du soutien des Français. Je pense plus précisément à deux moments, le week-end du saccage de l'Arc de Triomphe tout début décembre et l'attentat terroriste de Strasbourg du 11 décembre. Ce sont deux moments où le soutien au mouvement des Gilets jaunes a décroché dans l'opinion. Aujourd'hui, la France est vraiment partagée entre une grosse moitié qui soutient ou a encore de la sympathie pour le mouvement. Et pour autant, depuis début février, il y a effectivement eu un basculement dans le sens où une courte majorité souhaite désormais que le mouvement s'arrête. Donc on peut raisonnablement faire l'hypothèse que le nouvel accès de violence qui a eu lieu hier avec les images choc qui l'accompagnent est de nature plutôt à transformer l'opinion publique ou en tout cas à voir le soutien aux Gilets jaunes s'émousser.
À l'IFOP, vous observez la vie politique en France. Il y a eu beaucoup de manifestations et de grèves dans le pays. Est-ce qu'on a souvenir de pareilles violences dans l'histoire récente?
Pas récemment, c'est effectivement une violence qui est assez inédite, qui témoigne d'une situation politique et sociale qui est aussi extrêmement tendue, avec des crispations importantes en termes de pouvoir d'achat, un taux de chômage qui est toujours très élevé, un niveau de pression fiscale qui est fort, et dans ce contexte tendu, un président qui apparaît toujours éloigné des préoccupations des Français, même si c'est un trait d'image, on le voit dans les sondages, qu'il est parvenu un peu à gommer avec la mise en place du grand débat national.
Agnès Ball, directrice au département Opinion de l'IFOP. Demain, le président de la République recevra à l'Élysée une soixantaine d'intellectuels pour échanger dans le cadre du grand débat, lequel est officiellement terminé après près de 10 000 réunions, plus d'un million de contributions sur Internet. Place maintenant au dépouillement. D'ores et déjà, on sait que deux grands thèmes ont émergé des débats, le pouvoir d'achat et le besoin de justice sociale.
Oui, pour ne pas laisser le champ libre à Emmanuel Macron, la classe politique fait ses propres propositions après ce grand débat. Le Parti communiste devait remettre hier à Édouard Philippe ses 10 propositions pour la France. Alors parmi les demandes qui ressortent des 10 000 réunions qui ont eu lieu ces dernières semaines, l'aménagement de la TVA. Le patron de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, défend une TVA réduite sur 100 à 200 produits de première nécessité.
C'est vrai que dans le cas du grand débat, beaucoup de gens m'ont dit, il y a un problème en premier, vous savez, c'est quand même de remplir le frigo. Beaucoup de ceux qui nous écoutent peuvent se dire, oui, remplir le frigo, c'est pas si compliqué que ça. Si, il y a des gens qui comptent tout. Et c'est Jean-Paul Delevoye, à l'époque, il était médiateur de la République, qui avait indiqué, je crois, 11 millions de Français sont à moins de 10 euros à la fin du mois sur leur compte. Et la fin du mois, c'est pas le 31, c'est parfois le 15, le 10 ou le 5.
Xavier Bertrand, invité de questions politiques. Et quand on parle pouvoir d'achat et justice sociale, le débat sur l'ISF n'est jamais très loin. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, plaide pour l'introduction d'un ISF vert.
Est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait avoir un acte citoyen, demander à ceux qui ont les grandes fortunes de dire, bon, bah, puisque vous êtes les plus riches et que vous êtes certainement ceux aussi qui, par la force des choses, polluaient le plus, qui aviez le bilan carbone le plus important, que vous ne puissiez pas maintenant contribuer. Donc un ISF vert, ce serait pas complètement illogique.
Donc, voilà, Olivier Faure, pas convaincu par la manière dont l'exécutif a géré le grand débat. Il estime que certains Français n'ont pas cru à ce rendez-vous.
Le président a utilisé cette fenêtre pour plutôt en faire un long monologue, hélas, qui a peut-être découragé une partie des Français d'y participer, considérant qu'il s'agissait d'abord d'un exercice de communication plus que d'un dialogue démocratique.
Olivier Faure, invité du grand rendez-vous Europe 1, CNews et Les Échos.
Justement, Agnès Ball de l'IFOP, même si le grand débat a été au centre de l'actualité depuis la mi-janvier, il n'a pas levé le scepticisme des Français ?
Non, effectivement, là, l'heure est vraiment au bilan. Et pour autant, il ne faut pas tellement dramatiser cette sortie du grand débat parce que les enquêtes montrent que les Français sont assez sceptiques et ne se font finalement pas beaucoup d'illusions sur les débouchés du grand débat. On a seulement dans les enquêtes moins de 4 Français sur 10 qui pensent qu'Emmanuel Macron et le gouvernement prendront en compte les propositions qui ont été formulées dans le cadre du débat. Et surtout, 70% des Français qui pensent que le grand débat ne résoudra pas la crise politique en France.
Quand seront tirées les leçons de ce grand débat? Les maires qui se sont impliqués incitent l'exécutif aujourd'hui à prendre quelques mesures rapides, même symboliques, notamment en matière de pouvoir d'achat, pour ne pas décevoir les Français. Il y a vraiment la nécessité pour le président et le gouvernement d'adresser un message clair, un marqueur, j'allais dire, aux concitoyens.
Oui, là, il faut faire l'exercice un petit peu périlleux de synthétiser des dizaines de millions de contributions sur des thématiques qui sont très diverses, avec en faisant émerger quelques mesures très phares, clés, qui sont à la fois très lisibles pour l'opinion, à effet rapide et suffisamment larges et consensuelles pour ne pas activer finalement la perception que tout cela n'a été qu'une vaste opération de communication, ce que sous-entendent un petit peu les Français quand on les interroge. On le sait, le chef de l'État s'est engagé à tirer les conclusions du grand débat un mois après la fin de celui-ci, donc mi-avril. Ça semble effectivement être un bon timing parce que il y a évidemment en parallèle le calendrier des européennes du 26 mai et que le président de la République n'a absolument pas intérêt à ce que les conclusions du grand débat viennent parasiter le débat qui va s'ouvrir sur l'Europe, qui est vraiment son sujet de prédilection depuis la campagne présidentielle.
Et alors, ce qui ressortira de ce grand débat, sera-t-il finalement la feuille de route du président de la République pour le deuxième temps de son quinquennat ?
Oui, en tout cas, les Français l'espèrent et ils attendent des mesures phares, notamment en termes de fiscalité et d'environnement. Aujourd'hui, il reste quand même sur l'idée qu'il y a eu un peu un double échec du grand débat. D'abord, d'un point de vue sociologique, on le sait, les premiers dépouillements montrent qu'Emmanuel Macron s'est avant tout adressé à son électorat, puisque ce sont surtout les catégories favorisées, les plus diplômés et les urbains qui se sont mobilisés. Et ensuite et surtout parce que le grand débat ne sera pas parvenu à mettre un terme à la crise des Gilets jaunes, ce qui était quand même finalement son principal objectif au départ, et on a même vu hier que les violences ont redoublé lors de l'acte 18 des manifestations.
Vous écoutez Dimanche Politique sur RFI.
Philippe Le Caplin.
Son chat s'appelle Brexit. C'est très sérieux et c'est ce qu'annonce Nathalie Loiseau dans le journal du dimanche, aujourd'hui, donc dans le JDD. Or, elle est la ministre des Affaires européennes et c'est finalement elle qui emmènera la liste de La République En Marche aux élections au Parlement européen qui auront lieu le 26 mai. Annonce faite à l'occasion d'une curieuse déclaration, Jeanne.
Oui, curieuse ou alors mal interprétée par l'actrice principale, je vous laisse juge. Écoutez, c'était jeudi soir lors d'un débat face à Marine Le Pen.
Je suis entrée sur ce plateau et je vous ai dit que je n'étais pas candidate pour conduire la liste de la majorité aux élections européennes. Je vous écoute depuis tout à l'heure parler d'une Europe qui ne me fait pas envie.
Vous avez décidé d'être candidate pour finir.
Vous avez 3 enfants, j'en ai 4. Je n'ai pas envie que l'Europe de demain ressemble à celle que vous allez dessiner.
Voilà Nathalie Loiseau qui s'exprimait sur France 2, candidature qu'on n'attendait pas forcément il y a encore quelques mois, tout comme celle de Raphaël Glucksmann à gauche cette fois. L'essayiste se lance en tandem avec Claire Nouvian.
On va lancer une campagne en tandem, déjà ça sera une nouveauté, en tandem avec Claire Nouvian, qui, je pense que vous la connaissez, mais c'est une militante écologiste incroyable, qui est la lauréate du prix Goldman, qui est l'équivalent du prix Nobel pour l'écologie, qui est une combattante infatigable pour les océans, pour la survie des océans et de la biodiversité. Et on va lancer une campagne en tandem. Et cette campagne, elle vise à faire quoi ? À ébranler la scène politique.
Raphaël Glucksmann, chez nos confrères de France Inter.
Et qui représentera le Parti Socialiste, ce qui n'est pas du goût de tout le monde, puisque par exemple Stéphane Le Foll prend du recul. Agnès Ball, en termes de communication politique, ces deux annonces de candidature, aussi bien du côté de La République En Marche que du Parti Socialiste, est pour le moins étonnante. On sort des sentiers battus, en tout cas.
Oui, Nathalie Loiseau, c'est clairement quelqu'un qui semble très clairement maîtriser parfaitement les dossiers européens sur le fond. Après, sur la forme, comme elle l'a rappelé d'ailleurs elle-même, dès le début de son intervention lors de l'émission politique face à Marine Le Pen, elle est novice en politique, elle ne maîtrise pas encore les codes médiatiques, donc effectivement, l'annonce de sa candidature improvisée pouvait paraître un peu factice pour les téléspectateurs. En tout état de cause, et comme toujours pour un parti présidentiel, la tête de liste n'est que le substitut du président, et quelle que soit la tête de liste, la liste de La République En Marche devrait arriver en tête le 26 mai.
Alors ça, c'est pour la REM. Du côté des socialistes, on le voit, elle n'est pas emmenée, cette liste, par un historique, d'ailleurs par un encarté en tant que tel, Raphaël Glucksmann, mais par un faisceau avec débat public, place publique par exemple, dont d'ailleurs l'un des responsables, Thomas Porcher, annonce aujourd'hui qu'il se retire lui aussi. Donc ça, c'est loin de faire l'unanimité. Hein.
Oui, tout à fait. Et l'attelage entre le Parti Socialiste et le mouvement Place Publique témoigne surtout de la gravité de la crise au Parti Socialiste, qui a été à la fois dans l'incapacité de trouver un terrain d'entente avec ses partenaires historiques, comme Europe Écologie Les Verts, mais aussi, vous le disiez à l'instant, dans l'incapacité de faire émerger un candidat en son sein, ce qui est quand même la fonction numéro un d'un parti politique.
Ça veut dire que le scrutin européen, qui aurait pu être l'occasion pour le PS de se redonner enfin une contenance après sa déroute à la présidentielle, bien ce départ n'est pas vraiment annonciateur d'une stratégie forte.
Là, le fait que la tête de liste du Parti Socialiste soit un candidat extérieur au parti montre effectivement que les leçons de l'échec de la présidentielle n'ont pas encore été tirées et que le travail de rénovation programmatique n'a pas encore été entamé. Tout ceci explique sans doute que le Parti Socialiste, d'ailleurs, soit pour l'heure autour de 6% des intentions de vote, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à dépasser le score de Benoît Hamon à la présidentielle.
Alors, puisqu'on parle de chiffres, justement, l'IFOP, très régulièrement jusqu'au 26 mai, réalise un sondage. Quels en sont les principaux enseignements ?
Alors, le principal enseignement, c'est que il y a pour l'heure une difficulté quand même à mobiliser le corps électoral avec une participation qui s'inscrit dans la continuité des derniers scrutins. On a seulement 41% des Français qui disent aujourd'hui avoir l'intention d'aller voter. Donc, c'est à peu près le même score qu'en 2009. On est un petit peu en dessous de ce qu'on avait en 2014. Et l'autre enseignement majeur, c'est que La République En Marche et le Rassemblement National font très largement la course en tête avec 24 et 21% à peu près des intentions de vote, très largement devant les Républicains qui sont les troisièmes sur le podium autour de 13%.
Et qui remontent malgré tout.
Qui remontent un tout petit peu effectivement avec François-Xavier Bellamy qui fait plutôt des débuts assez réussis en tant que tête de liste.
Autre chose, derrière l'attaque de Christchurch qui a fait 50 morts en Nouvelle-Zélande, la France occupe une place centrale dans le cheminement du terroriste vers la violence. Il évoque un génocide blanc du fait de l'immigration de masse, des envahisseurs. Il exhorte l'Occident blanc à élever son taux de fertilité sous peine d'un remplacement culturel et racial complet du peuple européen. Ce qui fait référence à une théorie du complot d'extrême droite, popularisé en France par l'écrivain Renaud Camus, qui, je le précise, a condamné les attaques.
Oui, la théorie de Renaud Camus, bien connue de l'extrême droite française, sauf peut-être de Marine Le Pen. Écoutez, elle était l'invitée de Dimanche en politique sur France 3.
D'abord, je ne sais pas, je ne connais pas cette théorie du grand remplacement.
Vous la réfutez, vous?
Il y a des gens, moi je n'ai jamais utilisé ce terme-là, mais c'est pas le sujet.
Voilà Marine Le Pen qui distille les petites phrases et qui a condamné l'attaque de Christchurch. Cet homme ne vaut pas mieux que Daesh. Voilà ce qu'a déclaré la présidente du Rassemblement National, Daesh, ou le groupe État islamique qui était dans l'actualité cette semaine. 5 enfants de djihadistes français, orphelins ou isolés, ont été rapatriés en France. Une décision qui va plutôt dans le bon sens pour la tête de liste Les Républicains aux Européennes, François-Xavier Bellamy.
Les enfants ne sont pas responsables de ce qui a été commis par leurs parents. Et donc il est parfaitement normal que nous puissions accueillir ces enfants, ce qui suppose un travail extrêmement précis, un travail de grande qualité, parce que ces enfants viennent de théâtres de guerre où ils ont vécu l'horreur, et donc nous devons pouvoir accompagner ce retour dans les meilleures conditions.
Le retour des enfants de djihadistes qui sera probablement évoqué pendant la campagne européenne. Autre sujet qui sera à n'en pas douter au cœur des débats, la question migratoire. François-Xavier Bellamy mettait en garde tout à l'heure contre l'éclatement de l'Europe.
Enrico Letta, qui est un très grand Européen, s'il en est, a dit que si nous ne savons pas maîtriser l'immigration, il y aura 27 Brexit. Et je suis d'accord avec ça.
Voilà, François-Xavier Bellamy, invité de BFM Politique.
Agnès Ball, dans l'étude Euro-Rolling que vous réalisez, est-il question de la lutte contre le terrorisme?
Oui, tout à fait. Les enquêtes d'opinion et le Rolling montrent que la lutte contre le terrorisme, c'est le principal enjeu qui comptera pour les Français au moment de voter aux élections européennes, devant même des thématiques qui étaient au cœur du grand débat national, comme la fiscalité ou l'environnement. Alors, il faut dire que le sujet du terrorisme, il reste présent dans l'actualité depuis les grands attentats de 2015. La France n'a jamais été épargnée et l'attentat de Strasbourg en décembre dernier est venu réactiver les craintes des Français à ce sujet.
Et la question migratoire, est-ce qu'elle ressort comme devant être une thématique forte lors de ce scrutin européen?
Oui, d'autant plus que c'est quand même l'angle mort du grand débat national, un sujet qui n'a pas du tout été abordé. Et c'est un sujet sur lequel alors le clivage politique reste très important. On entend souvent dire que la droite et la gauche n'existent plus ou qu'elles seraient d'accord sur un certain nombre de sujets. C'est quand même particulièrement faux sur le sujet de l'immigration. Ce qu'on voit dans les sondages, c'est une forme de défiance envers l'idée de l'arrivée de nouveaux migrants qui s'installeraient dans le pays, qui ne cessent de progresser d'enquête en enquête, avec aujourd'hui 6 Français sur 10 qui estiment que l'Union européenne devrait faire preuve de plus de fermeté concernant l'accueil des migrants, et plus de 6 Français sur 10 qui pensent que la France accueille aujourd'hui trop de migrants.
À votre connaissance, vous surveillez bien évidemment ce que font vos collègues ailleurs en Europe. On retrouve à l'étranger, parmi les 26 autres pays, ce qu'on voit, ce que vous constatez en France?
Oui, avec la conviction partout en Europe que l'Europe, justement, est le lieu pour prendre ce genre de sujet en charge. Déjà en France, on sait que beaucoup de sujets et toutes les principales thématiques pour les Français, toutes les décisions se prennent au niveau européen, et c'est pour ça aussi que les Français et les citoyens des autres pays attendent évidemment de l'Europe qu'elle se prononce sur ce genre de sujet qui est extrêmement important dans les préoccupations.
Merci pour cette analyse et tous ces commentaires, Agnès Ball, directrice au département opinion de l'Institut IFOP. La politique encore sur RFI, Mardi Politique recevra justement, on l'écoutait il y a de cela quelques minutes, Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National. Dimanche Politique était réalisé par Valentin Vanner.
RFI parle au monde en français, mais aussi en 14 autres langues. Écoutez RFI en français. brésilien.
Todos os dias, acompanhe nosso programa em português nos horários de 6h30 e 12 horas, horário de Brasília para o Brasil.
Écoutez RFI en brésilien à Rio de Janeiro sur 98.9 FM et sur br.rfi.fr.